Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui François Molins.
Bonjour.
Bonjour, je pense que les gens qui vous regardent vous reconnaissent, mais je vais quand même vous présenter, ancien magistrat à la retraite, ancien procureur de Paris et procureur général près de la Cour de cassation. Vous avez publié « Au nom du peuple français » chez Flammarion, où vous racontez avec beaucoup de sincérité votre carrière, vos postes, les affaires qui vous ont marqué. Naturellement, quand on vous voit, nous, en tout cas, on repense à cette période des attentats de 2015, sur lesquels d'ailleurs vous revenez longuement dans votre livre. C'est même là que vous êtes rentré dans notre quotidien. Je voudrais commencer cette interview en vous montrant cet extrait d'une interview du préfet de Paris, Laurent Nunez. On l'écoute.
Je renvoie pour la menace terroriste à la propagande d'Al-Qaïda et l'État islamique actuellement, qui est très forte, qui se diffuse et qui cible aussi, bien sûr, la France. Oui. Et donc, nous sommes très attentifs. Pour nous, le terrorisme, c'est quelque chose évidemment qui est pris très au sérieux.
La menace reste très importante, très élevée.
Très importante, et la propagande de l'État islamique peut conduire un certain nombre d'individus à passer à l'action.
Alors, la peur que ça ne s'arrête jamais, on l'a eu pendant des mois, notamment en 2015. C'est ce que vous dites, ça s'arrêtera jamais?
Non, mais moi je pense que le terrorisme, effectivement, ne s'arrêtera jamais. Hein. Il est inscrit dans l'histoire, hein. C'est un peu la guerre des temps modernes. C'est comme ça qu'on peut la définir. Et quelles que soient les lois, aussi bonnes soient-elles, elles ne suffiront pas à empêcher tout ça. Je pense que Laurent Nunez, qui connaît particulièrement ces problèmes, il a été chef des services de renseignement en 2017-2018. Je pense que c'est bien placé pour parler de tout ça. Et effectivement, la menace, elle est là.
Elle a évolué un peu. Là, cet après-midi, un ado de 16 ans interpellé en Haute-Savoie, soupçonné de préparer une action pendant les JO. Il voulait cibler la défense.
Oui. Mais ça renvoie à un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, c'est celui de ce terrorisme inspiré qui peut voir des gens, et souvent des jeunes qui ne sont pas forcément dans les écrans radars des services de renseignement, qui vont être inspirés par l'idéologie mortifère de Daesh et décider de passer à l'acte. Bon, les Anglais appellent ça du terrorisme low cost, hein, où ils se débrouillent tout seuls, mais ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc c'est effectivement une menace à prendre très au sérieux.
Vous expliquez que à ce moment-là, en 2015, il fallait rassurer et que est-ce que au plus fort de la crise, comment est-ce que vous avez appréhendé ces moments où au fond tous devant notre télé, on vous attendait, vous. Il fallait à la fois rassurer, mais il fallait à la fois aussi être transparent. Il y avait une nécessité d'informer. Comment est-ce que vous avez arbitré avec le risque aussi de créer une forme de psychose dans le pays? Vous n'étiez pas forcément un communicant au départ.
Non. Alors effectivement, si vous voulez, le premier objet des conférences de presse, c'était pas de rassurer. On avait un traumatisme qui était majeur dans la population, qui avait ressenti très douloureusement tous ces attentats commis en France. Et face à ça, nous, on avait une responsabilité, c'était même un devoir, puisque moi, je prétends qu'aujourd'hui, la communication, c'est un devoir pour un procureur. Et il y avait effectivement ce devoir qui rentrait effectivement dans nos fonctions d'expliquer aux gens ce qui s'était passé de la façon la plus claire, la plus précise, la plus rigoureuse possible. On a compris que ce discours contribuait aussi à rassurer.
C'est vous qui décidiez?
Oui, toujours.
Seul, de communiquer, du moment où vous communiquiez?
Toujours.
C'était jamais dicté par l'exécutif, par exemple, par Beauvau?
Jamais. J'ai toujours décidé ça tout seul et je n'ai jamais soumis pour approbation mes éléments de langage au pouvoir exécutif. Je les envoyais au...
Ça aurait été inacceptable?
C'est logique. Le politique n'a pas, même si le terrorisme intéresse au premier chef l'État dans ses hautes sphères, le parquet est indépendant dans la conduite des affaires individuelles et n'a pas à recevoir d'instructions de la part du politique. Donc il n'a pas à en recevoir davantage sur le plan de la communication sur les affaires. Donc ces points presse, je les ai toujours décidés tout seul. Et je les ai faits comme je voulais, quand je voulais, et j'ai dit ce que je voulais.
Sans qu'on... Vous êtes parfois planté?
Non, je ne crois pas.
Avec le recul?
Non, honnêtement, parce que j'avais déjà des expériences de communication antérieures, c'est jamais parfait, mais je pense qu'on était une équipe parce que c'est un travail collectif, et honnêtement, avec le recul, je pense que on peut quand même être assez fier du travail qu'on a fait, qui a rassuré effectivement, et pour répondre à votre question, effectivement, la volonté de rassurer a pu, je le reconnais, parfois, me conduire à ne pas en rajouter, et à omettre, effectivement.
Et à ne pas tout dire.
Ça a pu m'arriver.
Et vous avez été surpris, on discutait avant le début de l'interview, vous me disiez que vous étiez surpris du lien que ça avait construit avec les Français dans la promotion de ce livre-là.
Oui.
Mais ça vous surprend ?
ça me surprend, on va dire, agréablement, oui. Parce que je pense effectivement que c'est important cette communication, parce que la transparence, elle peut susciter la confiance. Donc je pense que la justice avait une bonne image compte tenu de son action dans ces temps-là. Et effectivement, en ce moment, dans le cadre de la campagne de promotion de mon livre, je fais beaucoup de librairies.
Et vous faites des selfies.
Je fais des selfies, je fais des photos, et je suis frappé du coefficient de sympathie et de bienveillance des gens qui viennent me voir et qui souvent n'ont rien à voir avec le droit et avec la justice.
Et alors, ce qu'on apprend, et ce que certains Français apprendront dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas uniquement la partie du terrorisme. Non. Il y a une longue carrière. Vous avez été au cœur de nombreuses affaires, y compris d'affaires très médiatisées. Et il y a une affaire en particulier. Vous avez toujours lutté pour l'indépendance de la justice. L'affaire Cahuzac, où vous avez choisi, vous, encore une fois, tout seul, oui. Vous allez me dire, d'ouvrir une information judiciaire sur la foi d'articles de Mediapart. Vous saviez qu'au bout du compte, il y avait la possibilité de faire, entre guillemets, sauter un ministre.
Oui, tout à fait. C'est un phénomène, si vous voulez, qui le parquet, son travail, c'est de rechercher et de constater les infractions. Les politiques ne sont pas au-dessus des lois. Donc effectivement, un ministre du budget qui a juré les yeux dans les yeux que ce n'était pas vrai, mais qui est accusé d'avoir eu des comptes à l'étranger, c'est quelque chose qui parle. Et c'est un peu la conséquence du journalisme d'investigation. Quand vous vous trouvez comme ça, face à un article qui est relativement documenté et qui, à l'époque, reposait sur un enregistrement vocal dont il disposait, on a commencé par vérifier la réalité de cet enregistrement vocal, la vraisemblance, est-ce que cette voix était bien celle de la personne incriminée. Et partant de là, quand on a eu suffisamment d'éléments qui l'accréditaient, eh ben effectivement, on a pris nos responsabilités. Là aussi, c'est un travail collectif. Hein. Avec la section financière du parquet de Paris de l'époque, on a décidé de saisir un juge d'instruction.
La main qui tremble à ce moment-là ou pas?
Oui, on est conscient, effectivement, de vivre un moment d'histoire et des conséquences que ça va avoir.
Vous avez subi des pressions, François Molins, malgré tout.
J'en ai subi au tout début de ma carrière. J'en ai subi deux ou trois fois. Elles sont réelles.
C'est l'affaire Tapie.
Quand on m'a fait classer en début de carrière, après deux ans, une affaire politico-financière, quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
C'est laquelle ?
Une affaire dans l'Aude.
D'accord.
Sur pression du pouvoir politique, je me suis juré que ça ne m'arriverait plus jamais. J'ai eu une seconde pression un peu plus déguisée le jour où j'ai été convoqué chez un président de la République.
Nicolas Sarkozy.
Qui voulait avoir des éléments sur les suites que j'allais apporter à l'affaire Tapie. Alors vous me direz, où est-ce qu'il faut se situer ? Il y a des pressions, mais finalement, trois pressions sur une vie, quelque part, c'est pas beaucoup non plus.
Je voudrais avoir votre avis sur un élément d'actualité. La présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale a été convoquée à la police après une plainte sur un communiqué. À l'époque, les députés LFI avaient évoqué une offensive armée de forces palestiniennes pour faire face à, je cite, l'intensification de la politique d'occupation israélienne. Il y a une plainte, elle est convoquée chez les juges. On considère que c'est de l'apologie du terrorisme. Et la France Insoumise dit que c'est une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Comment est-ce que vous jugez cette affaire-là ?
Alors, moi, je ne veux pas porter un jugement sur une affaire en cours. Par contre, je peux dire deux choses.
Allez-y.
Je pense que par rapport à ce genre d'affaires, il faut avoir une réflexion à deux niveaux. Au niveau de la légalité et puis après au niveau de l'opportunité. En termes de légalité, la définition de l'apologie du terrorisme, qui est la même d'ailleurs que celle quand elle était dans la loi sur la presse, c'est le fait de présenter sous un jour favorable ou de glorifier un acte terroriste. Voilà, dans acte. Ouais. Donc là, je renvoie aux propos qui ont été tenus. Et puis, vous avez dans ce type d'affaires une question d'opportunité. En opportunité, quel examen faut-il porter sur ce genre de propos quand ils ont été tenus sur un terrain de débat d'idées et dans le cadre d'un débat politique ? Et ça, effectivement, ça pose la question effectivement, du risque évoqué de judiciarisation de la vie publique et de la vie politique ou pas.
Qui est un risque ?
Oui, c'est un risque. C'est un risque. Donc, je pense que cette enquête qui se déroule sous le contrôle du parquet de Paris va devoir donner lieu de la part du parquet de Paris, effectivement, à ce double examen. Est-ce que le délit est constitué ? Et s'il est constitué, en termes d'opportunité, est-ce que dans la mesure où ça concerne effectivement un débat public avec des échanges d'idées sur des questions qui sont effectivement extrêmement polémiques, qui intéressent la terre entière, est-ce qu'il est légitime de poursuivre ou de classer si l'infraction est constituée ? C'est le parquet qui y répondra.
François Molins, quand on a été si longtemps en responsabilité, en première ligne, notamment face aux terroristes, comme vous l'avez été, on l'a bien compris, qu'est-ce qui se passe après ? On écrit un livre, on se raconte, on se confie, et puis on fait quoi ?
Ben, moi, j'ai fait une troisième vie, en fait. C'est-à-dire que j'ai tourné une page. Hein. J'ai tourné une page.
Elle est vraiment tournée?
Alors, pas complètement, parce que je continue à suivre de près les questions de justice. Je vais très souvent à l'école de la magistrature. Hein. Je considère que j'ai une dette envers l'école. Donc, chaque fois qu'elle me demande et qu'elle a besoin de moi, ben j'y vais. C'est toujours oui par principe. Mais à côté de ça, j'essaie de développer des choses sur le mode de la transmission et du partage. C'est-à-dire que j'enseigne, je donne des cours.
La politique?
Non, non, absolument pas. J'essaie de me rendre utile autrement.
Bon.
Je vous dis l'enseignement, le partage, et puis je travaille aussi à titre bénévole pour une association qui s'appelle Parlons Démocratie, qui va expliquer les institutions de la République aux lycéens, parce que la démocratie c'est fragile, hein, surtout en
certains
ce moment.
Certains contestent la République des
Il faut la fortifier.
Ouais.
Et puis on forme aussi les professeurs d'histoire-géographie qui enseignent les grandes options de terminale.
Donc vous avez des journées bien remplies.
J'ai des journées bien remplies.
Rassurées.
Et je me rends utile autrement, enfin j'espère.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner de cette carrière de magistrat. Ça s'appelle Au nom du peuple français. C'est publié chez Flammarion. Merci encore François Molins. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur une affaire que vous avez peut-être suivie qui se passe au Parlement européen. On parle déjà du Russia Gate et du China Gate. A tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.